Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien avec celles et ceux qui créent par les temps qui courent. L'entretien de ce soir est préparé avec Jeanne Aléos, Corinne Amard, Romain Debecq de Lièvre, Laure Chastan et Lise-Marie Barré qui le réalisent. Ce soir au son, c'est Philippe Bredin.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Ce soir avec Tania Moureau. D'un côté, la catastrophe a lieu dans le silence de la photographie. Des paysages sont défigurés par la machine de l'homme, des forêts détruites, des pans de montagnes dévastés et la beauté de ce que l'on voit à l'image terriblement duelle. La nature apparaît bizarrement sans défense. De l'autre côté, la vie se débat et c'est sonore. Des baleinons apprennent à nager auprès de leur mère, leur cri mélangé au bruit de l'eau, mélangé aux éclats de lumière réverbérés par les vagues, est un spectacle inouï de résistance du vivant. Alors d'un côté le son, de l'autre le silence, et avec eux la question du bruit que fera la cicatrice faite à la terre dans plusieurs dizaines d'années. Cette question de la trace, de la cicatrice, de la balafre, pour reprendre le titre d'une de vos séries, Tania Moureau, est une question qui prend plusieurs formes dans votre travail, y compris quand vous l'adressez au langage ou à l'histoire. On peut rappeler la publication d'une très belle monographie à l'occasion de la rétrospective qui avait eu lieu au Centre Pompidou Metz en 2015. Bonsoir Tania Moureau, merci beaucoup d'être là.
Bonsoir et merci de m'avoir invitée.
Tout le plaisir est pour nous, on commence avec un poème.
I can't make the hills. The system is shut. I'm living on pills, for which I thank God. I followed the course from chaos to art. Desire the horse, depression the cart.
Romain Debecq de Lièvre lit le début, en fait, d'un poème qui s'appelle The Book of Longing. C'est un poème de Leonard Cohen qui inspire le titre de cette exposition, From Chaos to Art. Lorsque je vous ai demandé, juste avant de commencer l'émission, si on le lisait en entier ou si on ne lisait que ce morceau-là, vous m'avez répondu que ce morceau-là, tant ce qui vous intéresse dans ce poème, en tout cas ce que vous en avez gardé, c'est, je vous cite, une phrase choc, From Chaos to Art. Pourquoi est-ce que cette phrase est importante pour vous, Tania Moureau ?
Dans mon travail avec les écritures, je prends souvent des phrases que je glane aussi bien chez les écrivains que chez les musiciens ou dans les opéras. Bon, je suis rentrée en contact avec ce poème de Leonard Cohen au travers de sa renommée en tant que chanteur et j'ai appris qu'il était poète après coup. Lorsque je savais que j'allais avoir cette exposition et dans les temps, par les temps qui courent finalement, comment justifier une exposition artistique un peu calme finalement et la position de l'artiste dans cette espèce de turmoil qui se produit dans le monde qui nous entoure. Et je me suis dit que la seule manière d'expliquer ma position, c'était cette phrase de Leonard Cohen, « From chaos to art », c'est-à-dire le chaos, c'est le monde qui nous environne, les problèmes climatiques, les problèmes écologiques, les attentats, les guerres, la famine. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette phrase et j'en ai fait une œuvre. En éclatant littéralement les lettres et en me servant du texte pour en fait avoir une approche de peintre sur ordinateur. Donc, quand on rentre dans la galerie, c'est vraiment cette phrase qui est là, mais qu'on ne voit pas en fait. Il faut vraiment s'arrêter, réfléchir, déchiffrer. Prendre le temps, et je pense que pour l'art, ce qui est nécessaire, c'est d'arrêter cette course qui nous empêche de réfléchir, de ressentir, et de prendre le temps de se retrouver, en fait. Et je pense que l'art, c'est un peu ça. Pour moi, en tout cas, ça, c'est une proposition d'une halte dans cette vie complètement folle que nous menons en Occident.
En même temps, cette proposition-là, vous la faites depuis maintenant plusieurs décennies, et vous dites, Tania Moureau, lorsque je me suis vu proposer cette exposition, je me suis demandé comment justifier une exposition d'art par les temps qui courent. Ça signifie que dans les années 60, au début des années 70, cette question de la justification, le fait de devoir justifier, de prendre le temps ou de simplement avoir la possibilité de montrer de l'art, elle était moins à l'œuvre dans votre tête et dans votre pratique ?
Non, elle était carrément, c'était la même chose, puisque en fait, dans les années 60, fin années 60, début 70, j'ai proposé des chambres de méditation. Donc c'était vraiment se prendre le temps, s'extraire de cette folie consumériste. Et donc, pour moi, ça fait partie de ce que je pense, de ce que je souhaite. Du reste, je pars en Inde la semaine prochaine pour faire une coupure, pour me retrouver, pour, comme on dit, me ressourcer.
Dans cette exposition, quelque chose en effet de calme ou de faussement calme nous accueille ensuite. Ce sont des photographies assez longilignes, en noir et blanc, que vous avez prises en Normandie et qui laissent apparaître des silhouettes de béton comme posées juste au-dessus de la mer. C'est un calme que je dis trompeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est trompeur, ce calme des photographies qui initie l'exposition Tania Moureau ?
En fait, c'est une série que j'ai appelée Backstage et que j'ai prise à Romanche, et je l'ai tirée d'une manière telle qu'on ne sait pas si les structures sont posées sur le sable ou sur de l'eau. On ne sait pas. Mais enfin, en regardant, si on sait de quoi il retourne, on se dit, bon, bah, c'est de l'eau. En fait, ce qu'il y a d'intéressant à Romanche, c'est qu'il y a effectivement ces structures de béton qui survivent et qui, pour moi, sont vraiment le signe de la grandeur de l'être humain. En fait, ce sont les restes d'un port éphémère qui a servi à faire le débarquement. Et l'histoire est très belle, parce que c'est un ingénieur dont j'ai oublié le nom, qui avait eu cette idée, personne ne voulait, ne croyait en lui, et seul Churchill a cru en lui, lui a dit « Ok, vous le faites ». Vous êtes le chef de cette aventure, et donc pendant des années, les Anglais ont travaillé là-dessus, ils ont fait couler les constructions qu'ils faisaient dans la Tamise pour que les Allemands ne le voient pas. Les Allemands croyaient qu'ils allaient débarquer ailleurs, à Cherbourg, et bon... Et finalement, pour débarquer, il y a eu des histoires incroyables. Ils avaient construit des vasques énormes dans lesquelles ils mettaient de l'huile chaude pour que ça crée un nuage pour que les Allemands ne voient pas. Et je trouve que c'est à la fois fantastique et... On voit ces structures qui sont très paisibles, en fait. C'est presque une sorte d'espoir. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'au départ, ils pensaient le faire en fer. Ils ont manqué de fer et c'est là qu'ils ont inventé le béton. Et donc, voilà. Et je trouve que c'est presque un hommage à la grandeur de l'être humain.
Pourquoi vous dites la grandeur de l'être humain ? Parce que d'un seul coup, Churchill et cet ingénieur croient qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont en tête et construisent des choses ? Ou est-ce que c'est la grandeur de l'être humain aussi en tant qu'il est capable de laisser des traces bien des années plus tard que vous, artiste, pouvez photographier ?
Non, c'est plus ce projet formidable qui a eu lieu et qui, ce sont des gens qui se sont battus pour la liberté, pour la dignité de l'être humain et qui ont été jusqu'au bout, qui se sont donné les moyens et qui, par exemple, il y a une histoire extraordinaire, c'est que les gens, le tout venant, si je puis dire, toutes les personnes, tous les Anglais et Anglaises apportaient leur barrière de jardin, pour donner du fer pour cet événement-là. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce qui est beau, c'est justement cette union de plusieurs personnes pour arrêter la barbarie. Après qu'il reste des traces, bon, ça c'est secondaire. Pour moi, bon, moi je l'ai photographié parce que j'ai trouvé ça sublime. Et j'ai trouvé ça sublime non seulement plastiquement, mais aussi pour ce qu'il y avait derrière.
Et précisément, il se trouve que cette exposition à Paris montre que quelques œuvres récentes, Tania Mouraud. Mais c'est intéressant qu'elle s'ouvre avec la question de la trace laissée par la guerre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'entrer là encore, par une autre porte, dans votre travail, par cette porte-là, la trace que laisse la Seconde Guerre mondiale ?
Ça vient du fait de ma génération. Je suis une enfant de la guerre. Je suis aussi, comme on dit, pupille de la nation, puisque mon père est mort dans la résistance, justement pour ce combat de la liberté, de la dignité de l'être humain. Et c'est ce qui a vraiment façonné ma personnalité. Donc, on rentre effectivement, c'est juste en face de « From Chaos to Art ».
Exactement.
Et donc, il y a une réponse, il y a un va-et-vient entre les deux pièces, de mon point de vue.
D'ailleurs, aussi d'un point de vue pictural, je me permets de vous couper, parce que From Chaos to Art vraiment fait jouer le contraste du noir et blanc de manière très très forte, alors que cette série Backstage, on est vraiment sur des tonalités de gris, où on est bien moins du côté du choc que de la nuance, précisément,
tout
que de
fait.
La complexité.
Et de la méditation, ou de la rêverie plus que de la méditation. Et donc, c'est un peu là-dessus. Bon, en fait, notre vie est une série d'états d'âme qui varient au cours de la journée et qui vont de moments chocs à des moments beaucoup plus doux, beaucoup plus même, comment dirais-je, plus tristes aussi, ou des rêveries d'espoir, ou même des rêveries tout court, sans savoir finalement où le mental va nous emmener.
Et quand le mental vous emmène sur cette question de la résistance, sur cette question du débarquement, sur cette question de la Deuxième Guerre mondiale, il vous emmène dans une zone calme. Ce n'est pas non plus un hasard si c'est devant la mer Normande que vous vous arrêtez, que vous prenez, il me semble, vraiment du temps pour photographier. C'est quelque chose de calme en vous ?
En fait, je vais vous répondre. Après mai 68, je suis descendue dans le Vercors. Je suis allée pour la première fois là où mon père avait été tué. J'étais jeune à l'époque, et avec ce sentiment de dire « tu peux être fier de moi ». Donc de dire « voilà, je n'ai pas trahi ce pourquoi tu t'es battu ». Donc c'est un peu ça, si vous voulez. C'est toujours, comment dirais-je, le fait d'être, entre guillemets, une fille de héros, ça donne une stature et une exigence éthique. Ben moi, ça m'a donné une exigence éthique qui fait que qu'on retrouve finalement dans mon travail artistique, puisque c'est là où j'exprime plusieurs choses. Au fur et à mesure des années, il y a différents aspects du monde qui m'intéressent plus que d'autres.
D'ailleurs, puisque vous parlez de ce passage et de 1968, vous dites hérité de la vie du héros qu'a été votre père, d'une forme de droiture. On pourrait aussi penser d'une radicalité en tant que vous allez au bout de votre geste. En 68, vous décidez de brûler. Je ne sais pas si c'était la totalité des œuvres, en tout cas une grosse partie des œuvres,
la totalité,
pour passer à autre chose. On entend bien par ce geste-là que quand vous dites ou quand vous pensez faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de ce geste pour que vraiment il ait lieu.
En fait, toujours la même chose. J'appartiens à une génération où la place des femmes était carrément inexistante, sauf à la cuisine. Donc, elles étaient un peu... on n'avait le droit de rien, on n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque, on n'avait pas le droit de louer un appartement, on avait sans la permission du père ou du mari. Donc, pour faire ce que j'ai fait, il fallait vraiment avoir envie et se battre contre la société, en fait. C'était pas si facile. Donc, le fait de brûler mes toiles, c'est plus un trait de caractère. C'est effectivement ce que vous disiez. Quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et c'était aussi une manière de faire tabula rasa. Ça n'avait rien à voir avec mai 68, cet acte-là. Il s'avère que ça s'est produit
à
cette
ce
année-là.
Mmh.
Mais c'était pas... En fait, moi, mai 68, ça ne m'a pas beaucoup marqué. Parce que j'étais en Allemagne. Et j'ai été formée plus par Rudi Le Rouge que par mai 68. C'était... en amont. Donc pour moi, mai 68, c'était une sorte de redite de ce que j'avais connu en Allemagne. Mais c'était sympathique. Mais pour vous dire un peu l'ambiance, on était avec les copains à la coupole, et puis on regardait notre montre, on disait, il est 4 heures, il faut qu'on aille manifester, quoi. C'était...
Pourtant, c'est aussi à ce moment-là que vous descendez dans le Vercors et que vous
oui,
dites...
Oui, parce que c'était l'expression. Il y a eu un moment de, pour moi, sublimissime. C'était une société tellement archaïque, vous voyez. Et quand on a manifesté sur le boulevard Saint-Michel, d'un seul coup, au parleur, on a entendu « travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes, la Sorbonne vous est ouverte ». Alors que c'était quelque chose de complètement clos. Donc il y a eu des grands moments d'émotion, des grands moments, si vous voulez, d'espoir, de liberté, etc. Et donc c'est pour ça que je suis descendue dans le Vercors.
Voilà, c'était pas que regarder l'heure pour manifester. C'est-à-dire voilà. Il y a eu des petits caps néanmoins.
Voilà. Bon, mais pour les femmes, il y avait pas. Si vous regardez les films de Klein et tout ça, vous apercevrez qu'il n'y a pas une femme. Et les femmes à la Sorbonne qui voulaient parler et qui avaient une toute petite voix. Moi, j'ai de la chance, j'ai un haut-parleur dans la gorge, mais qui avaient une toute petite voix. Au bout de 3 secondes, on n'entendait plus ce qu'elles disaient. Donc, il n'y avait aucune présence de femmes en 68. C'était plus une histoire d'hommes.
En cela, toute la portée langagière qu'a votre art, qu'il s'agisse, que vous disiez tout à l'heure, de faire éclater le langage lorsque vous empruntez cette phrase « From chaos to art » à Leonard Cohen, ou bien tout ce qu'on connaît de votre installation du langage dans l'espace public, est-ce que ça a à voir avec le fait qu'à ce moment-là, prendre la parole en tant que femme dans l'espace public qui était la galerie ou le musée ou la rue était le premier acte radical?
C'est exactement ce que vous dites. C'est prendre la parole et la garder. C'est surtout ça. Et effectivement, d'éclater, de faire éclater jusqu'à ce que ça devienne complètement illisible. Ou au contraire, par exemple, ce que j'ai fait il y a, je crois que c'était l'année dernière, en Roumanie, avec la galerie Histoire Prospectus, ce sont des jeunes qui m'ont permis de réaliser un projet fou. C'est qu'il y a eu en Roumanie 100 affiches. Dans 9 villes de Roumanie, je suis franco-roumaine, donc il y avait aussi ce voilà, dont une affiche dans la ville de naissance de mon père, et le texte était « Criez toujours jusqu'à la fin du monde ». C'est un texte de Benjamin Fondane, qui était lui aussi franco-roumain. Et donc, s'est retrouvé, et qui était lui aussi, comme mon père, émigré en France. Et ce texte s'est retrouvé dans toute la Roumanie, en espèce de boomerang, une revanche, finalement, de ces gens qui avaient dû partir à cause des conditions difficiles de l'époque.
Et crier toujours jusqu'à la fin du monde. Ça vous fait du bien, on sent quand je le prononce. C'est vrai, qu'est-ce que ça vous fait, Tania Moureau?
En fait, ça correspond exactement à ce que je ressens en tant qu'artiste. Pour moi, c'est la meilleure description de ma pratique artistique.
De crier toujours jusqu'à la fin du monde.
On se doute quand même que du côté de la globalisation, il y a un certain nombre de problèmes. Et donc, ce qui est, j'essaie de comprendre, c'est qu'il y a un éléphant dans la pièce, un gros éléphant, qui est la question, disons, pour le dire vite, écologique, mais qui est bien plus large que écologique, et que les horizons qu'on nous avait donnés jusqu'ici dans la perspective de la modernisation, en laissant de côté évidemment les hyper-modernes, c'est-à-dire le rêve d'une espèce d'émancipation, mais caricaturale, c'est une espèce de futurisme caricature, qui est un élément du symptôme de la désorientation générale. Donc tout le monde est en train de tourner sur ce puzzle, comment ça se fait que les gens réagissent comme ça, comment ça se fait que les partis sociaux-démocrates disparaissent un peu partout, etc., etc. Et même si je suis pas politiste, ça fait longtemps que je m'intéresse à la question, disons, écologique, et du déni de la situation écologique, du déni actif des grandes sociétés américaines, mais aussi du déni passif, si j'ose dire, qui est notre indifférence générale et notre impuissance. Donc, ça rend fou, cette situation-là. Ça rend fou deux fois, c'est-à-dire, d'une part, il y a une énorme transformation de la Terre et une espèce d'incompréhension du lien entre Terre et l'horizon qu'on avait avant, là où on allait atterrir, si j'ose dire. On était supposé se globaliser et se moderniser. On sait que c'est pas possible. Donc ça, déjà, ça rend fou. Et ce qui rend fou, deuxièmement, c'est le déni. Donc mon hypothèse, elle est en fait assez simple, c'est de dire, mais vous avez tous les jours, vous entendez hier encore dans le monde 80% d'insectes en moins, la veille, chaque fois c'est des catastrophes, Et nous n'avons pas l'équipement mental pour absorber ces gens. Qu'est-ce que ça fait aux gens, ça? Je pense que la démoralisation, une espèce de dislocation, de désorientation actuelle, cette espèce de dissonance cognitive, vous entendez tous les jours à la radio ou à la télévision, dans les journaux, qu'il n'y a pas de terre correspondant à vos rêves, et en même temps, on ne vous dit pas comment faire, et on ne vous dit pas, non, cette modernisation, elle ne va jamais avoir de lieu où apparaître. Et donc, je fais une hypothèse qui est quand même assez simple, ce retour général de la question du sol, et la question de la terre, et la question de l'appartenance et des identités, elle a quand même un rapport assez direct avec la question écologique. Donc je dis, la question écologique, ou le déni de la question climatique, plus exactement, organise toute la politique depuis 30 ans.
Il y a un éléphant dans la pièce des Bruno Latour, c'est la question écologique, Tania Mouraud. Alors on l'entend ici au micro de Sylvain Bourmeau dans la suite, dans les idées, c'était très récemment, en octobre, sur France Culture. Cet éléphant dans la pièce, il semble qu'il soit aussi dans votre art, la question écologique. Tania Mouraud, on peut revoir ou voir la série Balafre, qui sont des grandes photographies montrant des paysages dont on sait, et par le titre et par ce qu'on voit, qu'ils sont dévastés, qu'ils sont blessés, qu'une cicatrice est en train d'être laissée sur eux. Ce sont des paysages que vous avez immortalisés où, Tania Mouraud?
Je suis allée en Allemagne, entre Düsseldorf et Cologne, où il y a la plus grande mine de lignite à ciel ouvert, et avec les machines les plus grandes du monde. Donc, ce qui m'intéressait là, c'était l'immense mensonge de l'Allemagne en se faisant passer pour les écologistes
de l'Europe,
alors que ce sont les plus grands producteur de CO2 avec cette histoire de lignite. Donc je suis allée là-bas, et évidemment, déjà en photographie, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette limite entre la peinture et la photo. Pour moi, la photographie, c'est la peinture du 21e siècle. Et comme j'ai été formée vraiment au Louvre depuis ma plus tendre enfance, je dirais que je disais à une époque, la peinture coule dans mes veines. Et donc, j'ai un regard de peintre au moment où je photographie. Et comme je fais très, très attention à la qualité des tirages, c'est vrai que les gens qui rentrent dans la galerie se posent la question, est-ce que ce sont des photos ou des pastels ou...
Une remarque est tout à fait valable pour la série qu'on évoquait auparavant, à savoir Backstage et ses gris, où on a vraiment l'impression d'un Turner presque, hein, d'une peinture de mer extrêmement passée presque dans ses couleurs. Pour en revenir à Balafre, vous êtes dans des tons qui sont propres à la géologie de cet endroit-là. Alors vous dites, je photographie en peintre. Mais comment vous arrivez dans ces endroits?
Alors, normalement, il y a des lieux d'où on peut photographier. Il y a des lieux d'où on peut photographier, mais évidemment, ce ne sont pas les lieux les mieux. Et puis, il y a des gens comme moi qui se faufilent et photographient de lieux interdits jusqu'à ce qu'ils soient repérés et chassés. Bon, alors c'est très difficile de faire semblant d'être une touriste, étant donné que pour faire ce type de photo, il faut quand même un matériel professionnel assez important. Toutes les photos sont faites au téléobjectif, d'où voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était ce que j'appelle la beauté du diable, c'est-à-dire j'ai toujours eu une fascination pour le monde industriel. Et cette fascination a dû naître lorsque j'ai vu Le désert rouge de Antonioni, ou en tout cas, je m'y suis reconnue. Et j'ai toujours poursuivi, aussi dans mes vidéos, ce monde, à part effectivement Ad Infinitum, ce monde industriel. Dans ce cas-là, ce que je montre, ce sont des paysages d'une beauté incroyable, et on est presque obligé de parler, c'est-à-dire on aime ça, Et après, on est obligé de parler, de dire, tu sais, c'est l'horreur, c'est ci, c'est là, etc.
Parce que ce sont des paysages qui sont détruits, en tout cas dans l'état dans lequel ils étaient avant, dans leur état naturel. Ils sont achevés par la main de l'homme et par ces géantes machines. Vous dites, on est presque obligé de parler pour ne pas aimer cette beauté, vous voulez dire? Pour défaire notre admiration, notre fascination devant cette beauté?
Voilà. On est obligé, si vous voulez, de faire intervenir l'intellect. Pour chasser un peu l'émotion. Le problème de ces lieux, c'est qu'évidemment, une fois que c'est terminé, ils creusent extrêmement profond, puisque c'est 350 mètres en dessous du niveau de la mer. Et après, quand ça sera terminé, tout ça pour créer un lignite ou une lignite, je ne sais pas trop comment on dit, c'est un charbon de très mauvaise qualité. Ils sont en train de détruire totalement le paysage européen pour quelque chose vraiment qui n'en vaut pas la peine. Et le problème, c'est qu'une fois que ça sera terminé, ils mettront en eau. Il y aura des bateaux de plaisance dessus. Donc c'est un camouflage perpétuel. À l'heure actuelle, ils font pousser des arbres tout autour pour pas qu'on voit ce qui se passe. Ils mettent des pistes cyclables le long, alors qu'il y a une pollution incroyable. Et c'est assez... disons que dans mon travail, j'ai toujours été attiré pour montrer finalement, mais pas d'une manière gore, Thanatos, la mort. Et là, on voit que cette surface de la Terre qui est comme un corps vivant est carrément balafrée, arrachée, trouée, tout ça pour le profit, pour l'argent.
Ce que je disais tout à l'heure, Tania Moureau, en introduisant notre discussion, c'est que la question de la balafre, de la cicatrice, mais aussi de la trace laissée, est une question qui est à l'œuvre assez souvent dans votre travail. Et là, ce qui est intéressant avec la série Balafre faite en Allemagne, c'est que ce sont des traces qui vont être, vous venez de le dire, recouvertes par de l'eau. Ce sont des traces qui seront muettes si personne ne le sait. Ce qui nous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Backstage et ces restes de béton qui trahissent l'existence fut un temps de ce port éphémère voulu pour le débarquement, à savoir, il s'est passé quelque chose, mais il faut le savoir pour observer la trace. Il y a quelque chose de l'ordre de montrer et de dissimuler. De même, pour l'éclatement du langage de la première œuvre dont il était question, From Chaos to Art, je glisse une phrase, mais il faut le savoir pour la voir. Il y a toujours cette espèce de dualité que ce que vous montrez n'est pas complètement visible.
Alors, vous parlez remarquablement bien. Moi, je suis artiste et je fais des images.
Trop facile, je refuse cette phrase.
Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est comme dans la vie. Si vous passez dans la rue en courant ou même, préoccupé par vos histoires, vous ne voyez pas les personnes. Si vous êtes dans une soirée et que votre amoureux ou amoureuse vous a quitté, vous voyez rien, vous trouvez tout le monde horrible. Et finalement, il faut prendre, on revient à cette notion, il faut prendre le temps pour creuser, pour comprendre, pour connaître, etc. Et c'est là, moi, en fait, si vous voulez, c'est un peu ça. En fait, je fais un décor qui est très agréable à l'œil, mais si on gratte, d'un seul coup, on tombe vers la douleur.
La mort, la guerre.
Et vers la douleur de la vie. C'est pas que les paillettes de luxe de Monsieur Vuitton.
Thank you. La baleine, bah, c'est la grosse question, la baleine. On peut l'appeler le destin, on peut l'appeler le cosmos, on peut l'appeler le dieu ou l'enfer, j'en sais rien. Mais la baleine, c'est la puissance que l'homme n'atteindra pas, même s'il veut essayer de l'atteindre. Et je crois qu'on est en plein dans la baleine en ce moment. L'homme a voulu dépasser la baleine, mais la baleine, elle est plus forte que l'homme. Et l'homme, il fallait peut-être pas qu'il joue à ça.
La baleine, on peut l'appeler le destin, le cosmos, le dieu ou l'enfer. On peut l'appeler la puissance que l'homme a voulu plus grande. C'est Juliette Berthaud qui raconte au micro de Marguerite Gâteau sa lecture d'Herman Melville et qui parle de la baleine dont on entendait des cris juste avant, puisqu'il s'agissait d'un extrait sonore de votre travail qui s'appelle Ad Infinitum, Tania Mouro. Pour le dire de manière un petit peu résumée, on est plongé pendant 8 minutes et en boucle dans une image et dans un son. Et si l'on met un peu de temps, ça va complètement dans le sens de tout ce que vous disiez, à affiner et à affûter notre regard, on se rend compte qu'il s'agit là de baleines qui nagent, d'une forme de danse répétée par des animaux. Encore une fois, dans quel contexte vous faites ce film, Tania Mouro, Ad Infinitum ?
Alors, tout mon travail est basé sur des expériences personnelles. Dans le cas de Ad Infinitum, c'est à la suite... j'étais en Californie, à Los Angeles, et je me promenais au bord de la plage, et d'un seul coup j'ai entendu des sons qui me semblaient très bizarres. Et en fait, c'était des sons de lions de mer, et j'avais jamais vu de lions de mer en liberté. Pour moi, c'était des animaux de zoo. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Après, j'ai surfé sur Internet. J'ai vu que c'était pas très intéressant. Et je suis tombée sur les baleines grises. Et là où j'ai eu énormément de chance, évidemment, j'avais décidé de faire un film là-dessus. Et là où j'ai eu énormément de chance, c'est que je suis tombée sur un guide qui était très honnête, parce que tout s'est passé sur Internet. Je lui ai dit exactement ce que je souhaitais. Aucun touriste, louer des bateaux, etc. Donc j'ai eu rendez-vous avec lui à San Diego. Il m'a amené dans un endroit à Baja California. Et effectivement, il n'y avait aucun touriste et tout. Et j'ai passé 8 heures par jour. Je peux pas dire en mer, parce que c'était pas la pleine mer. C'était plus pas une crique, c'est trop petit, mais enfin un endroit.
Une côte, un bord de mer.
Voilà. Où les baleines venaient tous les ans pour accoucher et restaient là jusqu'à ce que leurs petits puissent nager jusqu'en Alaska. Donc, je suis partie, je suis dans une barque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le spectateur prend toujours la place de la caméra.
Du film, là on revient dans le cadre de l'exposition.
Oui. Donc ça c'est très important de le savoir, parce que en fait, inconsciemment, il se met à la place de la caméra. Et comme je suis extrêmement près, je suis genre à 20 ou 30 cm des baleines sorties de l'eau. Ça c'était très important, je voulais pas faire quelque chose genre Commandant Cousteau, mal revisité, je voulais vraiment que ça soit des baleines qui sortent de l'eau pour qu'on soit confronté à cette immensité et qu'on retrouve ainsi cette espèce de frayeur d'enfant devant l'immensité du monde, qu'on soit à la fois confiant et un peu indécis. Je voulais vraiment que le spectateur ou la spectatrice ressente cette espèce d'incertitude de la vie face à cette incroyable chorégraphie, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on dirait une danse, j'ai vraiment fait un montage chorégraphique. Alors, il faut savoir que la mère, elle est quand même un peu plan-plan, comme dire, elle nageote. Mais le bébé, qui a quand même 7 mètres de long, lui, il a une mentalité de chaton. Donc, il va en dessous du bateau, il va au-dessus, il secoue le bateau, etc. Et c'est assez drôle, finalement.
Et ce n'est pas que drôle, Tania Moureau, parce que vous dites « je veux que le spectateur ou la spectatrice soit aux prises avec ses peurs d'enfant ou avec son incertitude ». Il y a aussi quelque chose de... On est très impressionné. Le reste de votre travail dans cette exposition montre l'homme qui abîme. Et là, dans cette danse entre la baleine et le baleinon, on sent l'homme qui... Alors, bien sûr qu'elles sont tuées, qu'elles sont chassées, mais là, on sent l'homme qui est émerveillé. On sent l'humain qui, devant cette force-là, est émerveillé et juste reste à quelques centimètres. Vous dites, on est à la place de la caméra, on sent votre caméra enfant émerveillé.
Tout à fait. Je dois dire que le premier jour où j'ai filmé, j'ai été complètement surprise parce que la tête de la baleine ne rentrait pas dans le cadre. Et donc, il a fallu... Vraiment, il suffisait que je tende la main pour lui gratouiller la tête. Bon, il y a effectivement cet émerveillement de la vie. Et parce que, en fait, mon travail est toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, il est toujours... c'est toujours la vie... Mais dans la vie, il y a la mort. Dans la vie, il y a la destruction. Mais là, c'est presque un hymne à la vie. Et grâce à cette manière d'être du spectateur face à un film, qu'il se retrouve, qu'il ou elle se retrouve comme un enfant émerveillé, sans a priori. En fait, sans a priori, parce qu'on est tous, finalement, l'éducation, c'est de nous broyer la tête avec des a priori. Et là, d'un seul coup, on revient, on regarde cette vie comme ça, mais on n'a aucune pensée, ni bien, ni mal. On se laisse carrément emporter dans cette immensité. Et le son, j'ai fait un très, très gros travail de son dessus, mais en gardant, si vous voulez, bon, en filtrant, j'ai gardé cette espèce de... machine qui souffle comme ça, quand j'ai gardé les souffles. Et j'ai gardé aussi le bruit du moteur, parce que c'est le bruit du moteur de la barque qui attire les baleines. Ils ne peuvent pas l'arrêter, sinon les baleines ne viendront pas. Et donc il y a ce bruit du moteur, mais je l'ai filtré, et donc c'est carrément comme un...
Comme un ronronnement
voilà,
de machine.
Voilà. Pour rappeler les baleines.
Pourquoi cette œuvre s'appelle Ad Infinitum ?
Parce que ça ne s'arrête pas, cette chorégraphie ne s'arrête pas et on n'a pas envie qu'elle s'arrête.
Vous disiez, en parlant de ce projet en Roumanie, « Crier jusqu'à la fin du monde », que cette phrase parlait de votre manière de faire de l'art. Presque l'idée d'une chorégraphie de la baleine à l'infini dit presque la même chose, Tania Moreau.
Tout à fait, mais avec, c'est un autre aspect. Je ne cherche pas du tout à parler tout le temps de la même chose. En fait, je suis un être humain tout à fait normal. Et donc, j'ai des tas d'âme et des tas de centres d'intérêt différents, d'où la diversité de ma pratique. Et à chaque fois, bon, si je parle d'une chose, la pièce d'après parlera pas de la même chose. Mais comme c'est moi qui en parle,
automatiquement, il y a quelques échos quand même.
C'est un peu... Et comme je dis souvent, j'en parle pas dans le vide. Je fais une confidence au spectateur ou à la spectatrice et je lui dis « Regarde ce que je vois bien dans mon monde, faisons un bout de chemin ensemble. » Un bout de chemin émotionnel, pas intellectuel. Il y a tellement de gens qui savent si bien parler et qui sont vraiment remarquables qui écrivent des livres. Moi, je suis plasticienne, donc je dis bien, bien avec moi, allons ensemble.
Et c'est une confidence qui a trait à quoi ? Qui a trait à votre propre sensorialité, votre propre sensibilité ? Vous nous faites la confidence de voilà ce que j'ai senti et voilà ce que je te propose de partager ?
Tout à fait, mais c'est un peu, pour moi, le spectateur ou la spectatrice, c'est ma ou mon meilleur ami, à qui on raconte tout. Et donc, je me mets complètement à nu, avec sincérité, comme quand on parle à sa meilleure amie. Et donc, évidemment, à ce moment-là, la personne qui s'est déplacée a déjà de l'empathie. Et si ça éveille, si ça marche, la personne suit et vit ce moment et est contente parce qu'on vit la même chose. On est sur les mêmes, comme on dit, longueurs d'onde.
Ou la même barque.
Ou la même barque.
Ce soir à minuit, le service de radiotélégraphie cessera de fonctionner, mais seules les communications radio se poursuivront.
Mike Papa Echo Romeo 7, Mike Papa Echo Romeo 7, Brest Le Conquet, for San Jose Radio.
Un des opérateurs est chargé d'envoyer le dernier message en morse, Bernard Piriou.
Appel à toutes les stations. Ceci est le dernier cri sur la fréquence 500 kilocycles avant le silence éternel.
Cet extrait est Tania Moureau d'un journal radio diffusé en 1997, il y a 20 ans, sur France Inter, et qui annonçait la fin de ses communications en morse. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît bizarre ou pas qu'on ait pensé aux morse.
Au moment où j'ai entendu, j'ai fait une bande-son en morse dans une vidéo que j'ai faite.
Ah, c'est étonnant. Oui. Parce qu'en fait, à regarder comme ça plusieurs de vos travaux, alors à la fois ceux qui sont exposés en ce moment, peut-être ceux dont on a pu prendre connaissance à Metz il y a 2 ans, je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre du langage secret, du langage codé, du premier langage aussi, et presque qui s'approchait, oui, de ce langage morse. Pourquoi est-ce que ça peut vous intéresser ou pourquoi ça peut trouver des échos, Tania Moureau, avec votre travail?
Quand j'ai fait la pièce en morse, c'était une vidéo sur le nord de la France, et en fait le texte en morse, si je puis dire, énonçait tous les puits fermés, tous les puits de mines fermées. C'est effectivement, si vous voulez, c'est-à-dire montrer sans montrer,
dire sans dire,
voilà. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Et puis, d'un autre côté, je me dis, tant pis, si les gens ne comprennent pas, si les gens ne s'arrêtent pas, si c'est... je comprends tout à fait. Mais si quelqu'un s'arrête et veut savoir, donc il y a un dialogue qui commence à s'ouvrir, et c'est très intéressant.
Évidemment, peut-être vous allez trouver ça très cavalier, mais puisque vous parlez tout à l'heure de votre père et de la résistance et du Vercors, est-ce qu'il n'y a pas, dans l'idée d'un langage caché, le fait de montrer sans montrer, le fait de lutter sans se montrer, le fait de parler sans être pris, le fait de communiquer sans être écouté, quelque chose qui pourrait avoir avec ce legs dont vous parliez tout à l'heure, Tania Moureau?
Peut-être, mais aussi c'est la condition féminine.
D'ailleurs, j'ai ouvert devant moi le continent noir, Black Continent, bien sûr.
C'est la condition féminine, c'est-à-dire que la parole féminine n'a aucune voix, même si on dit qu'elle a une voix, c'est pas vrai. On sait bien que si une femme dit quelque chose, même dans la famille, si c'est la mère qui dit quelque chose, personne n'écoute. Si c'est le père, tout le monde, même à l'heure actuelle chez les jeunes. Je considère, si vous voulez, que j'ai une attitude presque matriarcale dans mon travail artistique. C'est-à-dire que, en fait, traditionnellement, les valeurs éthiques étaient transmises par la mère et pas par le père. Mais avec les ados, comme je travaille avec le négatif positif ou les lettres éclatées, etc., j'ai une très très grande proximité avec les jeunes.
Ça a toujours été très à l'œuvre dans votre travail, ouais. La question de la transmission, la question, alors bizarrement aussi, de la lisibilité de votre travail, en fait. C'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup.
Mais, si vous voulez, c'est les adultes qui disent que c'est illisible. Même moi, je n'ai pas la patience de lire ce que je fais. Je sais ce qu'il y a, mais je ne le lis pas. Par contre, je me souviens, quand j'ai commencé ce type de travail, à la fin des années 70, j'avais des neveux qui passaient des heures, des heures j'exagère, mais enfin, une bonne demi-heure à décrypter ce qu'il y avait décrit. Et j'ai fait une intervention dans un collège avec des lettres éclatées, dont l'énoncé est... la première déclaration des droits de l'homme, enfin on devrait dire des droits humains plutôt que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et ils sont mais archi ravis d'avoir ça et eux le lisent. Donc, je crois, si vous voulez, qu'il y a... on revient toujours, on est pressé, on est stressé, on court, etc. Mais pour les gamins qui voient des choses qui les intéressent...
Ils ont du temps devant eux pour déchiffrer. Voilà. En tout cas, ils se le donnent.
Voilà, c'est ça.
Yang jizun chenpo tenyi ki pe kwa la punar draba mangpo shi dukpa la sunyum zebe. Yunda mo shundar chi ki denun shu marchung shik puwe tiringi sama chenpa tu la ta. Mala tumbe nwe jang mebe kerang kirzu sungbe mol hakbar mwede tiring shukbar sowa taba nangde. 8월 정도 슈베 차르타보식 중화라 모나레 어제 차들 무벌 슈스르발라 구르데 송소
Once, while Jetsun was staying in Pelmagelf cave, he went begging at a large encampment. A young patroness paid respects and offered a small piece of butter. Remembering that he had already received his daily share of food, he said, I don't even have a container to hold this butter. Keep it yourself. The woman was impressed and asked him to stay for the day. He did so, sitting a ways off. A torrential rain fell, and she said to him, Oh my, let me pitch a tarp overhead. Miller replied with this song.
Jigundu tamche jungwe ne zuki norbu shablandu Chinshu de la wangjuru shi bono zumbi bemonch Suenam ke ji yanglo ji tante ama zula nyu Mingo che ji ma shi na chikburu jube dumbu Kongdami la reba ye changla charbe dumba la Labu zetun deba Haksaman garawa ngozarachi Ngari zhutu be tangbo jib Dungi charbay jundu batimu Mimbe marumdi Yangda dawe shatandi Minjuru debe chargimi Jemni zangbi putandi Lange charshu jive Tundu jasibi chulungi Dungi jazu kurmur kir Nyesun sumje baloje mige lange dalade tenje dunge tsabjela jewa bado me bangur
C'est un trio de forces qui s'unissent comme cadeau pour terminer cet entretien. Tania Moureau, on est encore ensemble pendant quelques minutes, mais ils ouvrent peut-être ces forces-là un dernier chapitre. Il s'agit de Robert Ashley, de la voix qu'on entend ici de Rinpoche Malakunga, et tout ça mis dans un bourdon continuel par Eliane Radig. Tania Moureau, quand le son a commencé, vous m'avez regardé et vous avez juste hoché la tête comme si c'était « Ah, enfin !» Ah d'accord, ah ici c'est chez moi. Pourquoi ce son-là fait que vous vous sentez bien ?
Je crois que je ne suis pas la seule à se sentir bien avec ce type de son qui est très, comment dirais-je, presque primal et qui apaise toutes les tensions du mental. Il suffit de rentrer dans le son et d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, lentement, le mental se calme et on peut être dans une situation presque de sommeil, les yeux ouverts, j'allais dire presque. Et c'est ça qui est intéressant.
On a commencé cet entretien par parler du calme. Vous disiez, lorsqu'on me propose de faire une exposition à Paris, je dois entre guillemets justifier cette façon d'exposer mon travail en allant from chaos to art et en mettant l'art du côté du calme. Il se trouve que les premiers travaux dont vous parliez tout à l'heure étaient ces chambres de méditation, ces chambres d'initiation que vous proposiez aux spectateurs il y a de ça plus de 40 ans. Pourquoi est-ce que finalement ces chambres-là, si vous voulez bien les décrire, sont encore presque présentes dans votre travail actuel, Tania Moureau ?
En fait, il s'agissait d'espaces, à l'époque on appelait ça des environnements et pas des installations. Et c'était, enfin, si on pouvait trouver un équivalent, c'était de la peinture. Pour moi, c'était de la peinture. C'est les stanza, c'est-à-dire un peu comme en Italie quand on rentre dans les églises, on est complètement...
baigné par l'art.
Voilà. Et donc là, ce sont des chambres complètement blanches, sol, mur et plafond, où une lumière indirecte se reflète aussi bien dans le plafond que dans le sol que dans toutes les parois. Et il y a un son, alors évidemment la première que j'ai faite, le son avait été créé par Eliane Radig. Donc ça a été très amusant, votre choix a été très intéressant. Mais maintenant c'est moi qui fais le son. Et... c'était vraiment, je les ai appelés chambres d'initiation, parce qu'il s'agissait de passer d'un état à un autre. Et on en revient toujours à cette, je me répète un peu, la course, et puis pouvoir se poser dans l'infini, voilà, en suspension. Dans l'infini, dans la beauté d'une lumière qui se reflète à l'infini, sans avoir de bloc. Pourtant, on est à l'intérieur d'un lieu clos, mais grâce aux réflexions qui sont dans le blanc et qui permettent de ne pas voir son visage, ça nous permet donc de rêver, de ne pas se retrouver confronté comme dans un miroir.
C'est aussi presque un processus qui est à l'œuvre dans la vidéo dont on parlait, Ad Infinitum. C'est une forme d'environnement, là aussi, que vous proposez, notamment par la force du son. Vous précisiez tout à l'heure que c'était votre travail. Aujourd'hui, le son pour cette vidéo, c'est aussi vous qui le signez. Est-ce que vous créez quelque chose qui va bien au-delà que l'écran devant lequel on se situe ?
Ah, complètement. Pour moi, c'est vraiment un environnement total. On doit vraiment être au centre de cette expérience. Donc toutes les vidéos, par exemple au MacVal, il y a 2 ans, j'ai fait une installation vidéo de 1350 mètres carrés et j'ai été aidé par l'IRCAM pour réaliser justement cet environnement sonore. Il y avait 28 sources sonores. Et c'était vraiment complètement, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais entre guillemets, un art total, c'est-à-dire que permet la vidéo. C'est le rêve. Bon, Wagner a souhaité le faire à l'opéra, mais là, nous, avec les moyens modernes, on peut vraiment arriver à ça, à cette immersion dans le son, dans l'image, et surtout qui permettent de vivre avec son émotion. un problème de notre société quand même.
Pourquoi vous n'aimez pas le mot de l'art total, puisque c'est précisément ce vers quoi vous tendez parfois, cette immersion?
Peut-être immersion est mieux que art total, parce que art total, il est connoté, cette phrase est connotée malheureusement par les nazis, et donc voilà quoi. C'est pour cette raison que j'aime pas trop cette définition. Mais c'est vraiment peut-être parce que je suis slave ou quoi d'origine, peut-être refaire fonctionner un peu les émotions dans une société où il faut toujours être lisse et conforme.
Y compris quand on en passe par l'art conceptuel, jamais vous avez décidé que parce que votre proposition était abstraite ou conceptuelle, elle allait être loin des émotions, elles ne sont jamais parties les émotions. Votre point de départ est toujours la sensation, l'émotion, les affaires sensibles.
Tout à fait. Tout à fait, mais parce que c'est la vie. Je crois que, si vous voulez, à l'heure actuelle, par exemple, quand j'étais jeune, si quelqu'un était en deuil, ça se voyait. Et tout le monde respectait la personne. C'est-à-dire que les hommes mettaient une espèce de brassard noir et les femmes étaient toutes en noir. Et donc, on respectait les émotions des gens. Maintenant, non. Si on est en train de divorcer,
on doit faire bonne figure.
Voilà. On doit toujours être lisse. Oui, c'est très beau, tout va bien. Et si quelqu'un dit non, ça va pas du tout. voilà. Il faut que les gens qui ont un cancer soient encore plus performants que ceux qui n'en ont pas. Et tout va comme ça. Il faut que ça soit lisse, beau, jeune, et voilà. Et moi, je dis non, il faut garder, vivons ensemble un peu ce qui fait que nous sommes des êtres humains.
C'est presque le résumé de ce qu'on peut voir de ce très beau catalogue qui va bien au-delà, monographique, publié à l'occasion de la rétrospective au Centre Pompidou-Metz en 2015. Merci beaucoup, Tania Moreau, d'avoir été avec nous.
Merci.
Par les temps qui courent, où aller s'asseoir?
J'ai plusieurs réponses.
Alors allez-y, vite.
Alors, sur un banc au bord de la Tamise et dans mon jardin, dans le Berry.
Par les temps qui courent, où laisser flotter longtemps son regard?
Sur un enfant qui sourit.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait rire?
Les jeunes.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et quand vous voulez sur le site internet franceculture.fr. Quant à moi, je réponds sur Twitter @mariericheux, tout attaché.